RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Il est 3h à Jakarta, 20h en temps universel. Depuis Jakarta, RRI World Service, la voix de l'Indonésie avec des programmes en français.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie, présente le journal, les informations actuelles et les divertissements de l'Indonésie.
Vous pouvez écouter nos émissions sur les ondes courtes de 95-200 kHz.
Vous pouvez également écouter nos émissions sur www.voinews.id/french.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.
Bonsoir, servitrices et serviteurs des quatre coins du monde. Voici l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Notre émission va commencer par le journal suivi de commentaires et l'histoire d'aujourd'hui.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie avec le journal.
Bonsoir à tous, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le journal et on commence avec les titres. Le ministère indonésien des Affaires étrangères organise une marche diplomatique des Jeux asiatiques. L'Indonésie fait des amitiés à travers les Jeux asiatiques. L'importance de la coopération internationale pour atteindre des prix alimentaires plus abordables. La croissance de la valeur ajoutée manufacturière de l'Indonésie est la plus élevée de l'ASEAN. Coopération entre l'Indonésie et la Chine pour lutter contre la contrebande. L'Indonésie exporte les oignons vers les 6 pays. Chers amis, nous présentons maintenant le journal complet. Le ministère indonésien des Affaires étrangères, en collaboration avec le Comité d'organisation des Jeux asiatiques 2018 ou INASCO, a organisé la marche diplomatique des Jeux asiatiques qui a lieu au stade principal Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, le dimanche 11 février. La ministre indonésienne des Affaires étrangères, Mme Retno Marsudi, a dit que cette activité impliquait tous les ambassadeurs d'Indonésie en poste dans le monde entier, les autres fonctionnaires et les personnels du ministère des Affaires étrangères, y compris les ambassadeurs et les représentants des pays qui sont en Indonésie. Selon la ministre Retno Marsudi, le but de cet événement est de montrer la préparation de l'Indonésie en tant que hôte des Jeux asiatiques 2018.
Jadi pada hari ini kita melakukan Asian Games Diplomatic Walk. Artinya apa?
Aujourd'hui, nous faisons la marche diplomatique des Jeux asiatiques. Les ambassadeurs et les représentants étrangers à Jakarta rencontrent nos ambassadeurs dans le monde entier. Dès demain, nous organiserons une réunion de travail avec tous les chefs de représentation de la République d'Indonésie à l'étranger. Nous nous rassemblons ici pour faire une promenade matinale ensemble, tout en montrant la disposition de l'Indonésie à accueillir les Jeux asiatiques 2018 qui débuteront en août 2018. La ministre Retno Marsudi souhaite que les Jeux asiatiques, comme la plus grande fête de sport en Asie, puissent devenir une plateforme de compétition sportive et aussi devenir un forum pour les pays d'Asie d'établir l'amitié au milieu de la dynamique du monde qui change rapidement et plein l'incertitude. C'est ce qui fait l'Indonésie doit utiliser tous les événements et la possibilité afin d'établir l'amitié. L'Indonésie est choisie pour accueillir les Jeux asiatiques 2018 en 19 septembre 2014, remplaçant le Vietnam qui avait déjà été choisi comme l'hôte, mais a démissionné. Les Jeux asiatiques 2018 auront lieu en Indonésie dans deux villes de Jakarta et Palembang, Sumatra du Sud, le 18 août jusqu'à 2 septembre. Les 18e Jeux asiatiques qui se tiendront du 18 au 2 septembre 2018 à Jakarta et à Palembang dans le sud de Sumatra devraient permettre à l'Indonésie de nouer des amitiés avec divers pays concernés. En outre, il est également prévu sur l'événement où d'autres occasions peuvent également être utilisées comme un lieu d'amitié. C'est ce qu'a déclaré la ministre des Affaires étrangères, Mme Retno Marsudi, en marge de la marche diplomatique des Jeux asiatiques qui s'est tenue au stade principal de Bung Karno, Senayan, Jakarta, dimanche.
Asian Games dapat juga digunakan sebagai ajang untuk menjalin persahabatan.
Les Jeux asiatiques peuvent également être utilisés comme une arène pour l'amitié, et cette amitié dans le contexte du monde devient de plus en plus importante. Surtout au milieu d'un monde en évolution rapide, beaucoup d'incertitudes, nous essayons d'utiliser n'importe quel événement et n'importe quelle opportunité pour nouer des amis. Lors de la marche diplomatique des Jeux asiatiques, participée par des dizaines d'ambassadeurs et de représentants diplomatiques de divers pays en Indonésie, le ministre Retno Marsudi a également demandé le soutien à divers pays pour que les Jeux asiatiques 2018 en Indonésie se déroulent bien et réussissent. En outre, elle a également déclaré que l'Indonésie était prête à être l'hôte et fournir un service complet aux Jeux asiatiques 2018. La ministre invite également les gens à une synergie dans les Jeux asiatiques 2018 avec le slogan « Énergie de l'Asie ». Hisgiares Patiadi, le chef du Centre de recherche pour des études politiques indonésiennes, a fait part de l'importance de la coopération internationale pour réaliser le prix des aliments bon marché. Hisgiares Patiadi, lors du Forum asiatique de la liberté 2018 dans le centre de Jakarta samedi, a déclaré qu'il commencerait par la coopération entre les pays voisins, par exemple, l'Indonésie avec d'autres pays membres de l'ASEAN.
Di mana di dalamnya kami menekankan pentingnya kerjasama internasional dengan negara-negara sahabat.
Nous avons rappelé l'importance de la coopération internationale avec les pays amis, par exemple, entre l'Indonésie et les autres pays membres de l'ASEAN. Nous voyons que la coopération internationale ouvre des opportunités pour réaliser des prix alimentaires moins chers. Nos voisins sont entre autres la Thaïlande et le Vietnam, qui sont les principaux producteurs de riz au monde, qui deviennent même la référence du monde. Grâce au mécanisme de la communauté économique de l'ASEAN, nous pouvons obtenir une meilleure qualité de riz à un prix inférieur à celui que nous imposons à l'autosuffisance de notre propre production de riz. Hisgiares Patiadi a ajouté que le Forum asiatique de la liberté était un forum de discussion, d'information et d'expériences variées, ainsi que de moyens de réseautage et d'apprentissage pour les institutions dans divers pays d'Asie. Vous écoutez le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. L'Indonésie est la plus grande base de production manufacturière de l'ASEAN. Ceci est en ligne avec les efforts actuels du gouvernement pour transformer l'économie afin de concentrer sur le développement des industries de transformation non pétrolière et gazière. Le ministre de l'Industrie, M. Erlangga Hartarto, a déclaré à Jakarta dimanche que la fabrication est une clé importante pour stimuler l'économie nationale, car elle est plus productive et fournit un effet de chaîne plus large. Selon lui, l'industrie peut augmenter la valeur ajoutée des matières premières nationales, absorber beaucoup de main-d'œuvre, générer des devises étrangères à partir des exportations et contribuer la plus grande taxe. En termes de la croissance de la valeur ajoutée manufacturière, l'Indonésie occupe la position la plus élevée parmi les pays de l'ASEAN. La valeur ajoutée manufacturière de l'Indonésie pourra atteindre 4,84% dans l'ASEAN, environ 4,5%. Au niveau mondial, l'Indonésie est actuellement classée 9e au monde. La Direction générale des douanes et assises du ministère des Finances coopère avec les autorités douanières chinoises. le directeur général des douanes et assises, M. Heru Pambudi, a déclaré dimanche dans un communiqué à Jakarta que le but de l'accord était de mettre en œuvre la coopération sous forme d'échanges de données et de technologies de sciences pour lutter efficacement contre le commerce de biens illégaux et la coopération de renforcement des capacités. L'engagement de l'accord de coopération douanière sur l'échange d'informations et l'application des droits est réalisé parce que la menace de la criminalité transnationale organisée augmente de manière significative, nécessitant une attention spéciale des autorités douanières indonésiennes et chinoises. Selon Heru Pambudi, les deux autorités ont également convenu d'améliorer la capacité des employés à travers le partage de connaissances et de formation dans le domaine de la supervision et la coordination des opérations et des enquêtes. Le ministre de l'Agriculture, M. Andi Amran Suleiman, a déclaré que l'Indonésie était capable d'exporter les oignons de diverses régions d'Indonésie vers 6 pays. Selon lui, l'exportation de l'oignon est fière. Contenant auparavant, l'Indonésie importe toujours des oignons de différents pays. Comme l'a mentionné Antara, il a affirmé que ces pays importateurs d'oignons sont entre autres la Thaïlande et Sri Lanka. En plus de l'oignon, maintenant les agriculteurs peuvent exporter du maïs et périodiquement les exportations se poursuivent. Le ministre a ajouté que dans les prochaines années, sa partie ciblera tous les pays voisins auront une dépendance alimentaire à l'Indonésie. Ainsi, tous les besoins alimentaires de ce pays, y compris de riz, seront expédiés depuis l'Indonésie. Chers amis, c'était le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta.
Les commentaires, les points de vue de RRI World Service, la Voix de l'Indonésie sur des questions actuelles à l'intérieur et à l'étranger.
Bonsoir à tous, merci d'écouter la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le commentaire intitulé « Le rôle des chefs religieux dans le renforcement de l'harmonie nationale ». Dans son discours devant les participants à la réunion suprême des chefs religieux au palais présidentiel de Bogor, dans l'ouest de Java, le président Joko Widodo a exprimé samedi sa gratitude aux dirigeants religieux et aux dirigeants communautaires. Ils ont renforcé l'harmonie de la nation et se sont engagés à renforcer l'État unitaire de la République d'Indonésie, ou NKRI, l'État fondamental de Pancasila et Bhinneka Tunggal Ika. L'Indonésie est un pays pluriel qui a une population avec la diversité ethnique et religieuse. Mais le pluralisme ne divise pas l'État indonésien. Le pluralisme qui unit la nation indonésienne. Les questions religieuses et diversité provoquent souvent des tensions dans la vie sociale de la communauté. La présence d'un groupe de fanatiques envers une religion provoque des tensions, des conflits, des violences et des meurtres au nom de la religion. En outre, les questions ethniques, religieuses, raciales et interreligieuses, ou SARA, se propagent parfois si rapidement à divers couches de la société, ainsi crée un climat de conflit qui est très dangereux dans la vie de la nation. L'escalade des différences sur les questions ethniques, religieuses, raciales et interreligieuses a créé des conflits violents. L'Indonésie a connu un conflit au nom de la religion. Depuis le début de la réforme en 1998, lorsque le peuple indonésien a inhalé l'air de la liberté d'expression et d'expression de l'opinion, il y a eu plusieurs conflits au nom de la religion, comme par exemple le conflit qui a eu lieu à Poso dans le centre de Sulawesi de 1998 jusqu'à 2000, le conflit d'Ambon, les Moluques en 1999 et à Lampung Dusut en 2015. Les conflits religieux qui ont lieu dans une petite partie de l'Indonésie sont devenus des pages noires historiques pour cette nation. Cela semble être la preuve que l'Indonésie est toujours très vulnérables aux conflits dus aux croyances différentes. C'est là que le rôle des chefs religieux dans la réduction des conflits et le renforcement de l'unité nationale. En réduisant les conflits des questions ethniques, religieuses, raciales et interreligieuses, le rôle des chefs religieux est énorme. Surtout en l'année 2018, certaines régions en Indonésie tiendront une élection régionale simultanément. Et dans l'année 2019, aura lieu les élections présidentielles. Ces deux événements sont particulièrement vulnérables aux divisions et aux conflits, surtout si certains sont liés au problème de Sara. En principe, les conflits ne se produisent pas en raison de différents points de vue sur les croyances. Il s'agit bien plus des actions individuelles ou de groupes qui incitent à la colère d'un autre groupe, ce qui doit être évité immédiatement, notamment par les chefs religieux. Parce que si cette question n'est pas immédiatement résolue, les impacts ne sont pas seulement nuire à ceux qui sont en conflit, mais peut également menacer l'intégrité de l'État unitaire de la République d'Indonésie. Chers amis, c'était le commentaire.
Les faits historiques que nous présentons à travers aujourd'hui dans l'histoire.
Bonsoir, chers amis, nous continuons notre émission avec l'histoire aujourd'hui, le 12 février. Le 12 février 1912, la dernière monarchie en Chine, la dynastie Qing, est tombée. Partant de la frustration de l'élite et du peuple chinois, à cause du refus de la dynastie Qing de se réformer, et la faiblesse du royaume contre les manœuvres politiques des pays étrangers, une révolution a surgi contre le gouvernement royal. Avec l'inspiration et les idées de Dr. Sun Yat-sen, la révolution a alors culminé dans le désir d'abolir le système royal et de mettre en place le système républicain en Chine. Finalement, le 12 février 1912, le dernier empereur Qing, l'empereur Yuantong ou Puyi a descendu du trône suite de la révolution Xinhai. Un mois plus tard, le 12 mai 1912, la République de Chine est fondée avec Sun Yat-sen comme premier président. Le 12 février 1946, l'opération Deadlight s'est terminée. L'opération Deadlight est le nom de code de naufrage de sous-marins allemands U-boat qui se sont rendus aux Alliés à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Sur les 154 U-boats rendus, 121 ont été submergés dans les eaux offshore, l'Isahali en Irlande Nord ou au Loch Ryan en Écosse à la fin de 1945. Jusqu'au début 1946, certains U-boats ont fui de l'opération Deadlight pour ne pas abandonner après l'Allemagne à genoux aux Alliés. Certains U-boats sont revendiqués comme cadeau par le Royaume-Uni, la France, la Norvège et l'Union soviétique. Quatre U-boats étaient en Extrême-Orient quand l'Allemagne se rendit et était dirigée par l'Empire du Japon. Finalement, le 12 février 1946, cette opération est arrêtée. Le 12 février 2002, le procès de Slobodan Milošević était débuté au Tribunal des Nations Unies pour les crimes de guerre à La Haye. Slobodan Milošević est le président de la Serbie et la Yougoslavie. Il était président de la Serbie de 1989 jusqu'à 1997 et ensuite occupé le poste de président de la République fédérale de la Yougoslavie de 1997 jusqu'à 2000. Après la fin du conflit balkanique, Slobodan Milošević, sous le verdict de la Cour internationale des droits de l'homme à La Haye, a été recherché et a été arrêté pour des crimes de guerre présumés. Slobodan Milošević était reconnu coupable de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité commis au Kosovo, tels que le nettoyage ethnique ou le génocide dans le conflit des Balkans. Le 11 mars 2006, il s'est suicidé dans sa cellule à La Haye, aux Pays-Bas, à l'âge de 64 ans. Chers amis, c'était l'histoire d'aujourd'hui.
Indonesiaku, mon Indonésie présente l'Indonésie dans les domaines de l'économie, de la politique étrangère, le Pancasila, des sports et de l'environnement.
Serviteur, voici donc mon Indonésie et pour le titre, l'agence de notation du Japon augmente le classement de l'Indonésie. L'agence de notation Japan Credit Rating Agency LTD ou JCR a amélioré la notation de crédit souverain de l'Indonésie de BBB- ou outlook positif à BBB ou outlook stable. La mise à niveau a été annoncée jeudi. Dans un communiqué de presse, le JCR a déclaré que le facteur clé qui soutient l'augmentation de JCR de l'Indonésie et les efforts de synergie du gouvernement de faire la réforme structurelle pour atteindre une croissance économique durable. Cela a un impact positif et se reflète dans les conditions climatiques d'investissement qui sont de plus en plus propices, encouragées par divers paquets de politiques économiques. En outre, la dynamique du développement des infrastructures s'est également renforcée à travers l'initiative du projet stratégique national. Japan Credit Rating a également reconnu que 15 paquets de politique économique et le déclin des taux d'intérêt de la politique par Banque Indonésie ont stimulé l'augmentation de l'investissement privé, en particulier dans le secteur non marchand. En outre, la diminution du déficit des transactions courantes reste inférieure au niveau contrôlé. Les réserves d'échange élevées sont également des facteurs qui ont amélioré la note. Toutes ces conditions illustrent le renforcement de la résilience de l'Indonésie à la tourmente extérieure. Japan Credit Rating a également noté que le secteur bancaire indonésien demeure sain et le financement par les marchés financiers est en forte croissance. Cela se reflète dans l'émission d'actions, d'obligations et medium-term notes ou MTN qui augmente. Sur le plan financier, le JCR a reconnu que les réformes fiscales du gouvernement sous la forme du transfert des dépenses subventionnées vers les infrastructures, la santé et l'éducation ont réduit le déficit budgétaire et accru l'efficacité des dépenses. En réponse à cette augmentation, le gouverneur de la Banque indonésienne, Agus Martowardoyo, a déclaré que l'augmentation de la notation de JCR reflète la confiance croissante des institutions internationales contre le renforcement des fondamentaux économiques indonésiens et l'engagement du gouvernement à améliorer la structure économique à l'avenir. Agus Martowardoyo, dans son communiqué officiel à Jakarta jeudi, a affirmé que cette réalisation montre également une synergie politique harmonieuse entre Banque Indonésie et le gouvernement qui est capable de maintenir la stabilité de macroéconomique et le système financier. Serviteur, c'était mon Indonésie pour ce soir. Serviteur, un grand merci de votre fidélité d'écouter la voix d'Indonésie diffusée depuis Jakarta. C'est temps maintenant pour nous de vous présenter le magazine culturel et apprendre l'indonésien.
Connaître la richesse de l'art, de la culture et du tourisme indonésien dans le programme Le magazine culturel, Pesona Indonesia.
Bon Bonsoir, chers auditeurs. Bienvenue dans le magazine culturel en programme quotidien sur le tourisme, les arts, les alimentations et la culture des diverses régions d'Indonésie. Dans l'édition d'aujourd'hui, nous vous présentons un objet touristique dans la province de Java Central. Restez à l'écoute. Chers auditeurs, Semarang est la capitale de la province de Java Central. Cette ville est la cinquième plus grande ville métropolitaine en Indonésie après Jakarta, Surabaya, Medan et Bandung. La ville a de nombreuses destinations touristiques allant du tourisme naturel, tourisme religieux aux visites historiques. L'un des plus célèbres du tourisme historique à Semarang est la Wong Sewu qui a été construit à l'époque coloniale hollandaise. La Wong Sewu a été fondée le 27 février 1904 en tant que bureau central de NIS, l'une des compagnies ferroviaires des Antilles néerlandaises. Ce bâtiment a des fenêtres hautes et larges, ressemblant à une porte, de sorte que la communauté environnante appelle ce bâtiment la Wong Sewu, qui signifie « mille portes ». Bien que le bâtiment s'appelle la Wong Sewu, ce bâtiment n'a en réalité que 429 portes. Le bâtiment a été abandonné. La Wong Sewu a finalement été restaurée à la fin juin 2011 et rouverte au public le 5 juillet 2011. C'est parce qu'il a été construit comme le bureau central de NIS, l'histoire de la Wong Sewu est inséparable du chemin de fer Indonésie. Après l'indépendance de l'Indonésie, ce bâtiment est utilisé comme bureau de jawatan kereta api République Indonésie ou DKARI, ou maintenant appelé PT Kereta Api Indonésie. Il a également été utilisé comme bureau de l'infrastructure du commandement militaire régional et bureau régional du ministère des Transports de Java Central. Pendant ce temps, pendant la lutte, ce bâtiment est devenu un témoin silencieux des événements de la bataille de 5 jours à Semarang. Par conséquent, le gouvernement de la ville de Semarang en 1992 a inclus la Wong Sewu comme l'un des 102 bâtiments historiques dans la ville de Semarang qui devrait être protégé. La Wong Sewu est située dans le complexe de Tugu Muda, Jalan Pemuda, Semarang Central, la ville de Semarang, Java Central, précisément située au cœur de la ville de Semarang. Ainsi, l'accès aux destinations touristiques est assez facile. La Wong Sewu est ouverte tous les jours de 6h à 21h. Pour le prix d'entrée, il coûtera 10 000 rupiah pour un adulte, tandis que les étudiants et les enfants, le prix est 5 000 rupiah par personne. Si vous voulez entrer dans le sous-sol, cela vous coûtera 30 000 rupiah par personne et pour louer un guide, vous devez payer 30 000 rupiah. Serviteur, c'était le magazine culturel pour ce soir avec le titre La Wong Sewu dans la province de Java Central. Merci de votre attention. Au revoir.
Mari berbahasa Indonesia. Parlons indonésien. Vous invite à parler bien et facilement indonésien.
Bonsoir à tous. Nous continuons notre émission ce soir avec la rubrique Apprendre l'indonésien. Un programme qui introduit le vocabulaire de la langue indonésienne et vous guide de parler indonésien. Ce programme est une collaboration entre la Voix d'Indonésie et l'Agence pour le développement de la langue du ministère de l'Éducation et de la Culture d'Indonésie. Le sujet d'aujourd'hui est à la transportation humaine ou en langue française, le transport en commun. Ensuite, je vais vous donner un exemple de conversation ayant pour titre à la transportation umum ou en langue française, le transport en commun. Comme d'habitude, je vais prononcer lentement, phrase par phrase, deux fois. Vous pouvez répéter après moi. C'est une conversation entre Clara, une jeune fille britannique, et Cynthia qui s'assoit à côté de Clara. Elles sont dans la cabine de l'avion sur le chemin vers Yogyakarta. Écoutons la conversation ci-dessous. Clara, apakah di Jogja ada transportasi umum? Apakah di Jogja ada transportasi umum? En français, y a-t-il un transport en commun à Jogja? Cynthia, ya, tentu saja. Ya, tentu saja. En français, oui, il y en a. Clara, di Jogja ada transportasi apa saja? Di Jogja ada transportasi apa saja? En français, à Jogja, il y a quel transport en commun? Je répète, à Jogja, il y a quel transport en commun? Cynthia, ada bus Trans Jogja, taksi, dan kereta api. Ada bus Trans Jogja, taksi, dan kereta api. En français, il y a l'autobus Trans Jogja, le taxi et le train. Clara, oh iya, apakah di Jogja juga ada kendaraan roda tiga? Apa namanya? Saya lupa. Je répète. Oh iya, apakah di Jogja juga ada kendaraan roda tiga? Apa namanya? Saya lupa. En français. Ah oui. Y a-t-il des véhicules à trois roues à Jogja? Quel est le nom? J'ai oublié. Cynthia. Beca. Beca. En français. Beca. Clara. Oh iya, beca. Oh iya, beca. En français. Oui, beca. Cynthia. Ya, tentu saja ada. Ya, tentu saja ada. En français. Oui, certainement il existe. Clara. Apakah ada kereta api cepat? Apakah ada kereta api cepat? En français. Y a-t-il un train rapide? Cynthia. Tidak ada. Tidak ada. En français. Rien. Serviteur, après avoir écouté cette conversation, je vais vous introduire le vocabulaire et les expressions reliant au thème d'aujourd'hui. Je vais prononcer deux fois et vous pouvez répéter après moi. Ya ada. Ya ada. En français, oui, certainement. Tidak ada. Tidak ada. En français, rien. Kereta api. Kereta api. En français, train. Kereta api cepat. Kereta api cepat. En français, train rapide. Apakah di Jogja ada kereta cepat? Apakah di Jogja ada kereta cepat? En français, y a-t-il le train rapide à Jogja? Transportasi umum. Transportasi umum. En français, transport en commun. Di Jogja ada transportasi umum apa saja? Di Jogja ada transportasi umum apa saja? En français, quel transport en commun y a-t-il à Jogja? Beca. Beca. En français, beca. Taxi. Taxi. En français, taxi. Tiga. Tiga. En français, trois. Roda. Roda, en français, roue. Roda tiga. Roda tiga, en français, trois roues. Kendaraan roda tiga. Kendaraan roda tiga, en français, véhicule à trois roues. Pour poser des questions sur la présence ou l'absence de transport en commun, vous pouvez dire apakah di Jogja ada transportasi umum? Je répète, apakah di Jogja ada transportasi umum? Ce qui signifie, y a-t-il un transport en commun à Jogja? Si vous voulez savoir s'il y a ou non un mode de transport en commun, Comme exemple, le train rapide, vous pouvez dire apakah di Jogja ada kereta api cepat? Apakah di Jogja ada kereta api cepat? Ce qui signifie y a-t-il un train rapide à Jogja? Pour répondre à cette question, s'il existe, vous pouvez dire ya ada. Ya ada. Ce qui signifie oui, il y a. Ou si rien, vous pouvez dire tidak ada. Tidak ada. Ce qui signifie il n'y a pas. Ou vous pouvez dire complètement ya di Jogja ada transportasi umum. Ya di Jogja ada transportasi umum. Ce qui signifie oui, à Jogja il y a le transport en commun. Ou di Jogja tidak ada transportasi umum. Di Jogja tidak ada transportasi umum. Ce qui signifie à Jogja il n'y a pas de transport en commun. Exemple, Clara. Apakah di Jogja ada transportasi umum? Je répète. Apakah di Jogja ada transportasi umum? En français, y a-t-il un transport en commun à Jogja? Sinta. Ya, ada. Ya, ada. En français, oui, il y en a. Clara. Apakah di Jogja ada kereta cepat? Apakah di Jogja ada kereta cepat? En français, y a-t-il le train rapide à Jogja? Sinta, tidak ada. Tidak ada. En français, il n'y en a pas. Pour savoir quel type de transport en commun existe, vous pouvez dire ada apa saja? Ada apa saja? Ce qui signifie c'est quoi? Pour répondre à cette question, vous pouvez dire ada biskota, ada taksi, ada kereta, ada beca. Ce qui signifie il y a les autobus, les taxis, les trains, beca. Exemple, Clara. Apakah di Jogja ada transportasi umum? Je répète. Apakah di Jogja ada transportasi umum? En français, y a-t-il un transport en commun à Jogja? Sinta, ya ada. Ya ada. En français, oui, il y en a. Clara, ada apa saja? Ada apa saja? En français, c'est quoi? Sinta, ada biskota, kereta api, taksi, beca. Ada biskota, kereta api, taksi, beca. En français, il y a les autobus, les taxis, les trains, beca. Il existe plusieurs types de transport en commun en Indonésie. Donc, vous n'avez pas à vous inquiéter si vous voulez visiter l'Indonésie, surtout dans les grandes villes comme Bandung, Surabaya, Yogyakarta, Medan et bien sûr Jakarta comme la capitale de l'Indonésie. Car il y a beaucoup de transports en commun. Chers amis, c'était la rubrique Apprendre l'Indonésien pour ce soir. Que cette rubrique soit utile pour vous qui voulez connaître davantage la langue indonésienne. Rendez-vous demain avec un autre sujet plus intéressant. Merci de votre fidélité. Au revoir. Chers auditeurs, nous finissons notre programme avec le magazine musical.
Pelangi Nada, le magazine musical, vous présente les musiques et les chansons indonésiennes.
Bonsoir tous les auditeurs de RRI du Service mondial de la voix d'Indonésie, n'importe où que vous soyez. On se rencontre dans la rubrique du magazine musical. À cette édition, nous vous présentons les chansons de Kroncong des chanteuses indonésiennes. Bon, chers amis, pour commencer notre rencontre d'aujourd'hui, écoutons une chanson intitulée Prasasti Pemuda ou L'inscription des jeunes chantée par Keksi Mulyani. Bonne écoute.
Thank you.
Serviteur, nous venons d'écouter la chanson intitulée « L'inscription des jeunes », une chanson illustrant le rôle de la jeunesse dans la lutte de la nation. Cette chanson encourage aussi la jeune génération afin qu'elle s'unisse et se lève pour la nation. C'est une véritable chanson de Kronchon qui est bien chantée par Keksi Mouliani. Bien que le rythme de la chanson soit mélodieux, mais la beauté de la musique et le fort caractère vocal de Keksi pour transmettre le message de cette chanson est capable d'élever l'esprit de la jeunesse à faire et dévouée à la patrie. Le poème « La chanson sur la jeunesse et son esprit » restera toujours pertinent. Bon, serviteur, nous allons écouter une chanson de Kronchon dont le titre est « Kesayangan ou mon chéri » chanté par Trinovianti. Bonne écoute.
Thank you.
Secrétaire, je vous rappelle que vous êtes avec nous dans le programme Le Magazine Musical. Il y a beaucoup de choses qui peuvent évoquer des souvenirs dans le passé. L'une d'elles est la chanson. Par une chanson, même la chanson que nous aimons vraiment, le souvenir du passé semble revenir. C'est ce qui est dit par la chanson intitulée « Ma chérie » de Trino Vianti. Serdita, Trino Vianti est l'une des chanteuses de dangdut talentueuses indonésiennes. Avant, elle a porté souvent des chansons de croncheng dans une émission des chansons de croncheng diffusée à la télévision nationale TVRI. Puis, elle a quitté cet événement à cause de la maladie de la tumeur qu'elle a souffert. Cependant, après quelques temps plus tard, elle a récupéré et a commencé à apporter des chansons croncheng avec son apparence et sa qualité sonore sont toujours agréables à entendre. Bon, serviteur, pour terminer l'édition du magazine musical d'aujourd'hui, nous vous donnons des chansons dont le titre sont L'île de Java de Keksi Mulyani et Violon en vert de Trino Vianti. Bonne écoute et à la prochaine! Thank you.
Les émissions de La Voix de l'Indonésie peuvent également être écoutées via le streaming audio sur le site www.voinews.id/french.
C'était notre programme pour ce soir. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt.
Merci d'avoir écouté les programmes en français de RRI World Service, La Voix de l'Indonésie.
Suivez nos émissions tous les jours sur les ondes courtes de 9525 kHz. Envoyez-nous vos critiques et suggestions à RRI World Service, La Voix de l'Indonésie, RRI, au 4e étage, Jalan Medan Merdeka Barat, numéro 4-5, Jakarta, 10110, ou PO Box 1157, Jakarta. Vous pouvez également rejoindre sur Facebook The Voice of Indonesia et Twitter @VOIINDONESIA ou bien Instagram voice-of-indonesia.
RRI World Service, La Voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.